Videodrome, l'emission cinéma.
Cinéma, 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 cinéma. Cinéma, 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 cinéma.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Videodrome saison 2, épisode 2. Videodrome, c'est l'émission qui aime le cinéma et qui le prouve sur Radio Balise 99.8 et en direct, s'il vous plaît. Par avance, nous demanderons votre indulgence si jamais ce direct n'est pas conforme à vos attentes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Lubna. Bonsoir Lubna.
Bonsoir Laurent.
Avec Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Et avec Jean-Jacques.
Bonsoir.
Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les sorties de la semaine, les films toujours à l'affiche à ne pas manquer, des films à voir ailleurs qu'au cinéma, les trésors cachés de Lubna, la rubrique électro-BO de Jean-François, la rubrique de Jean-Jacques. Notre thème est beaucoup d'autres choses encore. Allez, c'est parti pour une heure, vous êtes bien dans le Vidéodrome.
Les sorties.
Alors, les sorties de cette semaine, on a sélectionné pour vous quatre sorties. La première, c'est le Blade Runner 2049, le film de Denis Villeneuve. On avait du son, on aura du son plus tard. Le film de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford et Jared Leto. Le pitch. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L'officier K est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Donc, c'est la suite de l'emblématique Blade Runner qui était sorti en 82. Il y a une nouvelle version, Cut Directors, comme on dit, dans les milieux autorisés, qui était sortie en 92. En 82, le Blade Runner n'a pas eu un succès faramineux. Il a été assez mal accueilli de mémoire par la critique, parce que je pense que c'était un genre un peu différent.
Je vous dis que j'ai du son maintenant, alors on peut peut-être...
Alors, si on a du son, on ne va pas parler de 82, mais de 2017 et plutôt de 2049. On écoute.
L'humanité ne peut survivre. Les réplicants sont l'avenir de l'espèce. Et je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
Il a toutes les gâchettes de la ville. Je vous ai vous.
Faut l'arrêter à tout prix. Qu'est-ce que tu veux ?
Je me dis que vous pourriez...
Voilà, un peu de son du Blade Runner 2049. Ce Blade Runner dure 2h44. Donc c'est un élément à prendre en compte. C'est donc la suite du premier. Denis Villeneuve, son dernier film traitait déjà d'un sujet de science-fiction, puisque c'était Premier Contact, une science-fiction... intelligente, entre guillemets, avec pas forcément beaucoup d'effets spéciaux. Personnellement, moi, j'ai découvert Denis Villeneuve avec Incendie, que je trouvais être un très bon film. Ensuite, on a eu Ennemi et Sicario. Ce Blade Runner, il a été, a priori, accueilli de façon assez différente par la critique. D'aucuns ont parlé d'un blockbuster dépressif, certainement très excessif, d'un film d'une beauté sidérante, mais peut-être avec un scénario assez fin ou assez ténu. Attention à la bande-annonce, parce que la bande-annonce pourrait laisser à penser que c'est un bon blockbuster de science-fiction, mais a priori, on n'est pas trop dans ce cadre-là. Est-ce que ça vous donne envie, mes chers camarades, ce Blade Runner 2049?
Ouais, moi ça me donne plutôt envie. Alors tu dis que c'est pas un blockbuster, peut-être pas un blockbuster. Peut-être que ça va rester dans le film, un peu comme le film de 82, qui serait plutôt dans un film noir, en fait. Hein. C'était vraiment un film noir qui se passait dans un futur. J'en parle maintenant parce que je l'ai regardé l'autre jour à la télé, dimanche, je crois.
Oui, il est passé récemment. Dimanche dernier.
Donc, en fait, j'ai un peu... C'est assez frais dans ma mémoire. Et c'est vrai que c'était plutôt un film noir. Hein. L'atmosphère serait poisseuse. De détectives, quoi, voilà, qui pourraient très bien se passer dans les années 30, quoi, par exemple. Hein.
Donc là, je ne suis pas sûr que ça soit poisseux à voir. Mais,
S'il n'y avait pas de la pluie qui dégoulinait comme ça dans les annonces.
Mais c'est vrai que la pluie dans le Blade Runner, dans le premier Blade Runner, était très, 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 très présente. Jean-Jacques ?
Bon, moi, je suis assez étranger à l'univers de Blade Runner. Je l'ai vu il y a quelques temps, enfin, il y a assez longtemps. J'avais trouvé ça assez intéressant. Il y avait justement de très belles images, comme tu le dis, on était marqué par l'esthétique du film. Maintenant, l'histoire, je sais qu'il y a des réplicants, je ne sais pas ce qu'est un réplicant. Je ne l'ai pas revu pour l'occasion, donc je pense qu'il faudrait que je me mette à jour.
Jean-Jacques, un réplicant est un esclave créé par bio-ingénierie. C'est le pitch qui le dit.
On peut difficilement reconnaître un humain.
D'accord. Bon. Sur ce, après, c'est toujours intéressant de voir justement quand un auteur vient s'emparer d'un blockbuster et justement tout ce qui s'y joue. D'ailleurs, c'est assez, j'ai l'impression, contemporain, moderne, cette idée-là de maintenant, vu qu'on croule sous les blockbusters, d'essayer d'y mettre aussi la vision d'un auteur et toujours voir ce qui se produit dans cette rencontre-là. Donc voilà, ça peut être intéressant, qu'importe finalement si le scénario est ténu. Justement ce qu'il est capable de faire, ne serait-ce qu'esthétiquement. Souvent l'esthétique peut aussi être un enjeu, peut tenir aussi un propos intéressant.
Voilà. Ok, donc une petite pièce pour Jean-Jacques.
Oui.
Lubna.
Eh bien moi aussi j'ai envie d'aller le voir, je suis assez curieuse. Je m'arrange aux deux avis, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après j'espère ne pas être déçue, même si j'ai des légères réticences, je pense que je vais être quand même un petit peu déçue, mais...
Je me disais que tu avais peut-être un petit faible pour Ryan Gosling.
Bah, forcément.
Il est tellement rare au cinéma que c'est l'occasion de le voir.
Ok, donc c'était Blade Runner 2049. On vous laisse faire votre choix et vous nous communiquerez votre avis si vous le souhaitez. On passe à la deuxième sortie, Happy End, de Michael Haneke.
Étrange.
Qu'est-ce qui est étrange ?
Que je sois là, présent.
Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus.
Happy End, donc le nouveau Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz. Le pitch officiel est d'une synthèse très synthétique. Tout autour, le monde et nous au milieu, aveugle, instantané, d'une famille bourgeoise européenne. Voilà. Michael Haneke, on va en parler, je crois, un peu plus tard dans l'émission. Donc là, c'est son dernier film. On est plutôt... Alors, ça se passe dans le nord de la France, je crois, une famille bourgeoise classique. Est-ce que c'est une satire de la société bourgeoise ? Est-ce que Michael Haneke va encore plus loin dans sa dimension un peu mortifère ? Ce dont on peut être sûr, c'est qu'en termes de mise en scène, ça sera toujours brillant. Après, est-ce qu'on n'est pas peut-être à la limite du système ? C'est ce que j'ai pu lire quelque part, une quasi auto-parodie de l'Autrichien qui souffrirait peut-être du syndrome de Terrence Malick, qui fait des films de plus en plus abscons et qui s'auto-parodie, entre guillemets. Bon, j'exagère un peu. Moi, personnellement, je trouve que Michael Haneke est un cinéaste remarquable, avec des films assez divers comme Funny Games, Caché ou Le Ruban Blanc, et d'autres qui pour moi étaient un peu plus abscons, mais ça reste l'un des plus grands réalisateurs européens, comme le soutien à juste titre Philippe Rouillet. Est-ce que Happy End dans cette famille bourgeoise du Nord vous donne envie ? Jean-Jacques, je te donne la parole tout de suite.
Moi, j'irai presque par devoir, parce que je vais parler de son film précédent. Donc voilà, c'est Puis ouais, c'est toujours intéressant de se confronter à son cinéma. Maintenant, si tant est qu'il se parodie, d'après ce que tu as dit, ben ça pourrait nous du coup y supposer une touche d'humour chez lui. Ce serait nouveau, donc pourquoi pas dans ce cas-là.
Tout à fait, une distance, une mise en abîme, pourquoi pas. Ça peut être un argument pour aller voir Happy End. Lumna.
Eh ben, comme vous, je pense que Heineke est un des grands cinéastes du cinéma contemporain, donc effectivement, même par devoir, je pense que je vais aller le voir. Après, c'est rarement une partie de plaisir qu'on passe devant un film de Heineke. C'est souvent, ça me met souvent en mal à l'aise, ça me fait réfléchir, ça me... Mais oui, évidemment, je vais aller le voir, même si je pense que je ne serai pas forcément bien en ressortant.
D'accord. Donc, parce que d'habitude, Lumna nous dit « Oh non, je ne vais pas y aller, j'attendrai le dimanche soir. »
Non, là je ne vais pas attendre dimanche soir.
D'accord.
Si je peux rajouter rapidement quelque chose. En fait, le plaisir qu'on peut y trouver, s'il faut trouver du plaisir chez lui, c'est peut-être justement dans la mise en scène, dans la façon dont c'est du cinéma.
Bien sûr.
Ça parle de cinéma dans la façon dont c'est construit même, dans la façon dont on fait un plan. Et c'est très didactique. J'en reviendrai un peu dans ma chronique, mais c'est là où il y a au moins un plaisir de cinéma à le voir se mettre en scène sur l'écran.
C'est clair.
Après, le propos, c'est autre chose.
Jean-François. Happy End.
Happy End, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi
moi
pas.
Aussi. Ouais, ouais.
Ok. On passe à notre troisième sortie de la semaine, l'atelier.
Mais allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave.
Ben, pourrait y avoir un meurtre.
Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début.
C'est obligé qu'il se passe ici, le roman.
L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat.
Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con.
L'atelier, donc le nouveau film de Laurent Cantet, qui avait été sélectionné à Un certain regard à Cannes en 2017. Donc, film avec Marina Foïs et Mathieu Lucci. Le pitch de ce nouveau film, La Ciotat était 2016, Antoine accepte de suivre un cours d'écriture à quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Le travail d'écriture va faire ressurgir le passé, ouvrier de la ville, un chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté au monde actuel, il va rapidement s'opposer au groupe et à Olivia que la violence du jeune homme va alarmé autant que séduire. Le nouveau film donc de Laurent Cantet, qu'on avait découvert entre autres avec Ressources humaines, qui, avec l'excellent Jalil Lesper, qui était un très très bon film, enfin moi qui m'avais marqué à l'époque. Ensuite on a eu L'emploi du temps avec Aurélien Recoin, on a eu Vers le Sud, et puis on a eu Entre les murs, la Palme d'Or 2008 à Cannes. En caricaturant, bon, Laurent Cantet, il fait du cinéma social, on va dire, et qui prend des faits sociaux comme centre de son discours, avec une dimension cinématographique évidente. On retrouve dans l'atelier Marina Foïs, qui d'année en année, de film en film, s'affirme comme, je pense, une excellente actrice. On sait qu'elle avait commencé avec les Robins des Bois et petit à petit, elle a fait des comédies et après, elle a basculé sur des films un peu plus sombres avec un peu plus de matière comme Irréprochable, un thriller d'il y a 2 ans. Le film parle de La Ciotat. Ça, je pourrais vous faire 25 minutes sur La Ciotat, mais on n'a pas le temps ce soir. Quoique, je vais faire quand même 5 minutes, mais après. Alors, cet atelier, est-ce qu'il vous donne envie ? Jean-François ?
Moi, il me donne beaucoup envie. Ouais, ça me donne beaucoup envie. Le côté où on va avoir encore à nouveau des acteurs qui ne sont pas des acteurs, je pense. Hein, comme dans
c'est ça, c'est juste Marina Foïs qui...
C'est comme si c'était voilà, c'est le côté documentaire, un peu comme dans Hors les murs, où on est avec des personnes qui sont dans la vie de tous les jours. Et non, moi, ça m'intéresse vraiment. Ouais, vraiment, j'ai vraiment envie, parce que son cinéma, à chaque fois, m'a plu. Le côté social, le côté... Bah, y a un propos quand même très personnel à chaque fois. Non, moi, ça me dit vraiment bien. Et Marina Foïs aussi, je pense qu'elle peut être vraiment très bonne dans le rôle.
D'accord.
Ouais.
D'autres envies ou d'autres...
Eh ben, tu parlais de mon fameux film du dimanche soir.
Je le vois arriver, le film du dimanche soir.
Voilà, bah, je pense que non, j'irai pas le voir au cinéma parce que... Eh ben, contrairement à ce que tu disais sur la mise en scène et tout ça, là, je pense que Il y en a moins, c'est moins un metteur en scène qu'un cinéaste, peut-être un peu plus du propos, un cinéaste film social. Mmh. Donc non, j'ai pas forcément envie d'aller le voir au cinéma. Par contre, je le verrais par curiosité sur ma télé, mais pas au cinéma.
D'accord.
Du coup, moi je vais poser une réserve sur ce que tu as dit. Je pense que c'est un cinéaste justement de cinéma. J'en veux pour preuve, il y a souvent cette confusion entre le social et le cinéma. Ressources humaines, c'est un film fantastique sur Djalil Lesper qui cherche sa place, qui explore des milieux et qui ne la trouve finalement nulle part et qui est contraint à la fin de partir. Donc il y a vraiment quelque chose du cinéma et de sa présence dans le cadre jusqu'à sa disparition. Entre les murs, alors il est vrai, voilà, c'était dans une école, des jeunes, leur façon de parler, mais quelle rythmique des plans, quelle dynamique. Les plans n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi géométriques. Il y avait vraiment quelque chose qui se jouait dedans. Alors, je n'ai pas vu toute son œuvre, mais j'ai l'impression que souvent, on va le résumer presque comme on aurait pu le faire finalement pour les Frères Dardenne. Les Frères Dardenne, il y a du social, mais il y a du cinéma. Et
bien
je
sûr.
Pense que chez lui, ou même encore chez Philippe Foucon, qu'on pourrait résumer à tort aussi à ce qu'il raconte, alors qu'il y a aussi ce qu'il filme. Et donc, je pense que même si... Bon, je n'irai peut-être pas le voir parce que d'après les cahiers, c'est un peu trop sage. Mais en tout cas, il y a du cinéma et je voulais au moins défendre ça chez lui.
Il y a du cinéma et dans ma bouche, le caractère social n'était pas un gros mot.
Ah non, j'ai pas
il
dit
y a
ça,
aussi une prise en compte, une approche cinématographique évidente. Je ne vous parle pas de La Ciotat, mais je pense que c'est très très symbolique que ce film ait lieu à La Ciotat, qui est une ville avec un passé ouvrier très important qui se ressent encore. C'est une ville en phase de gentrification assez importante aussi. Une ville du Sud qui, comme beaucoup de villes du Sud, a une prégnance de gens qui votent pour des partis extrêmes et extrémistes. Et puis c'est quand même La Ciotat, c'est dans la gare de La Ciotat qu'est quand même entré le train des Frères Lumière. Donc rien que pour ça. Moi, j'irai. Voilà. On passe à notre quatrième et dernière sortie de la semaine.
Ici, à Détroit, c'est la guerre. Et la violence continue.
La police de l'État et la garde nationale ont été mobilisées. Je déclare l'état d'urgence.
C'est la guerre. Ils détruisent toute la ville. Je pars du principe que vous êtes tous impliqués.
Alors donc, Détroit, c'est le dernier film de Catherine Bigelow avec John Boyega, Will Poulter et Algie Smith. Le pitch, donc durant l'été 67, les USA connaissent une vague d'émeutes sans précédent à Détroit, alors que le climat est insurrectionnel, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité de la garde nationale. Les forces de l'ordre encerclent un motel d'où semblent provenir les détonations. Les policiers soumettent une poignée de clients à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Alors il faut savoir que on fête les 50 ans des émeutes de Détroit qui comptent parmi les émeutes les plus meurtrières des États-Unis, puisqu'il y a eu 43 morts et 1200 blessés. Je crois qu'il y a seulement les émeutes de Los Angeles de 92 qui ont été plus importantes. Ce sont des émeutes qui ont marqué visiblement, durablement l'histoire de Détroit, où, a priori, pendant un certain temps, il y avait une cohabitation entre deux communautés. Et ces émeutes ont créé une fracture qui a priori, a été très très importante. Un petit mot sur Catherine Bigelow. Moi, j'aime beaucoup Catherine Bigelow. Je trouve que c'est la plus grande réalisatrice américaine. J'adore ses films, j'adore Point Break, je vous en parlerai plus tard. J'adore des
J'adore Keanu Reeves en fait.
Non, j'adore Catherine.
Ou le surf.
J'adore Catherine Bigelow. J'ai beaucoup aimé Des Mineurs, qui a été oscarisé en 2010. J'ai bien aimé Zero Dark Thirty sur la traque d'Oussama Ben Laden. C'est une réalisatrice qui aime se plonger dans des milieux masculins. C'est une mise en scène assez nerveuse et rien que pour ça, moi, j'irai voir Détroit ou Detroit, comme disent nos amis états-uniens. Et vous, est-ce que ça vous donne envie?
Bah ouais. Écoute, je me range à tout ce que tu as dit.
Vous n'êtes pas obligé. Hein.
Ça... Non, moi, j'ai bien envie de le voir. Pour le coup, je suis assez curieuse. J'ai beaucoup aimé ces films aussi d'avant. Et je vais aller le voir plus que le film de Laurent Cordet.
Ok.
Moi, ça me donne aussi envie. La bande-annonce m'a donné vraiment envie. Donc, je pense que je connais mal Catherine Bigelow, mais je pense que c'est une actrice très intéressante. Et là, ça, le propos en plus me parle. me parle beaucoup plus peut-être que ses films précédents et j'ai vraiment envie d'aller voir.
Très bien. Jean-Jacques ?
Ouais, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je ne connais pas son cinéma, donc je me plongerai peut-être d'abord dans ses films précédents.
Très bien. Est-ce qu'il y a des films qui sont toujours à l'affiche que vous voulez conseiller à nos auditeurs ? Non ? On n'a pas de coup de cœur particulier. Oui, toujours à l'affiche. C'est juste pour être méchant. Mes chers collègues...
Je sais de quoi tu vas parler, Laurent.
Nous savons très bien, Laurent.
Mes chers collègues Lubna et Jean-François m'ont dit « Oui, je vais aller voir... Nous allons aller voir Un beau soleil intérieur. » Et bien visiblement, je suis le seul autour de cette table... Avec Jean-Jacques a été voir.
En fait, c'était un piège.
Oui, c'est ça.
C'était le test.
Donc, je ne peux pas dire que j'ai été transporté, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça parle beaucoup. On ne rit pas forcément. Juliette Binoche joue très, très bien. Il y a Paul Dalides, il y a Beauvois. Il y a pas des mises en abîme, mais des clins d'œil. Et j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça, la scène finale avec Gérard Depardieu. Un mec qui fait tourner les pendules, je ne sais pas comment ça s'appelle.
C'est un voyant, non ?
Oui, un voyant, oui, voilà, on va dire un voyant. Donc bon, finalement, finalement j'y suis allé. Bon, je crois que Jean-Jacques, tu as 3 mots à nous dire sur...
Alors rapidement, moi je pense que c'est un film sur l'équilibre, c'est un film sur beaucoup de choses, c'est un film sur les gros plans des visages, sur la façon dont les visages tournent les uns autour des autres et tournent finalement et bougent tout souvent assez pour ne pas en fait se laisser aspirer, dévorer, éclipser par un autre visage. C'est exactement en fait ce que fait Juliette Binoche. Elle ne cesse de tourner autour des visages, mais elle ne se laisse jamais aspirer par l'un d'eux. Et puis, c'est aussi un film de la surcharge, où j'ai l'impression que sa mise en scène en fait beaucoup, mais beaucoup d'effets, beaucoup de musique, mais en même temps, c'est pour de temps en temps arracher une image pure, presque un plan de visage qui est presque un faux raccord sur tout le reste, et qui essaye de toucher à la vérité des choses. Et je finirai juste sur la toute fin, notamment, quand on a l'impression qu'elle dénude elle-même sa fiction, quand on voit Juliette Binoche face à Gérard Depardieu, et tout d'un coup, il y a le nom Juliette Binoche qui s'affiche sur l'image de Juliette Binoche. Elle n'est même plus l'actrice, elle n'est plus le personnage, elle redevient la comédienne. Comment on est toujours dans cet équilibre fragile entre est-ce qu'on est dedans et on y croit à fond. D'ailleurs, à un moment, Depardieu dit comment ai-je pu y croire ? Alors, est-ce qu'il faut y croire ? Est-ce qu'il ne faut pas y croire à ce qu'on voit ? Il y a un propos intéressant.
Ok, très bien.
Merci pour cet éclairage. Oui. Alors là, je crois que je vais y aller encore.
Ah, c'était le but. À voir ailleurs, moi, je vous dis juste 2 mots. Il y a la télévision. Bon, le cinéma, c'est au cinéma, c'est mieux. Il y a les plateformes. À la télévision, pour ceux qui ne l'ont pas vu, lundi prochain, il y a Le Chat de Pierre Granier de Fer, qui date de 71, avec Jean Gabin et Simone Signoret. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais moi, il m'a particulièrement marqué. Et c'est là que j'ai compris que le couple pouvait être un enfer. Donc je vous laisse. Et ça, c'est un bon film du dimanche soir. Et le deuxième, par contre, c'est le même jour, c'est Point Break. Donc avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Et que je trouve, moi, c'est un de mes films cultes avec cette bande de surfeurs, avec les masques des présidents américains.
L'image est très forte, là.
Franchement, pour 91... Ouais. Ça speed bien et c'est c'est Catherine Bigelow qui a tourné ça. Donc voilà. Ok, moi c'était les 2 petits trucs à la télé. On va poursuivre avec
un morceau de musique.
Okay. piece of sinful screens, bare the facts, assume the die, end the vows, no need to lie and cry. Take a ride, take a shot now.
Portishead sur un titre, sur un sample plutôt de Lalo Schifrin, compositeur de musique de film excellent qu'adore Laurent.
Et oui, merci Jean-François. On passe à notre chronique suivante.
Les goûts des cœurs cachés de Loubna.
Alors, le coup de cœur caché, c'est quoi ? Le coup de cœur caché, c'est des films autoproduits, amateurs ou des films rares. Donc, qu'est-ce que les films autoproduits ou amateurs ? Donc, c'est des films peu financés, hors circuit habituel, qui ne passent pas par des commissions et qui n'ont pas de producteurs. Donc, c'est des films faits avec des bouts de ficelle. Les gens qui travaillent sur le film sont très, très souvent bénévoles. Ils empruntent du matériel, c'est de la débrouille. Du coup, ces films-là, il y a une certaine liberté de ton. Les cinéastes testent des choses, ils n'ont pas de compte à rendre. Il y a des choses complètement improvisées, des choses ratées, mais aussi des belles réussites. Et donc, mon coup de cœur caché de ce soir, ce sera Le Rogue, un court-métrage de 2013 qui dure à peu près 13 minutes et qui est réalisé par Léo Dazin, dont c'est le quatrième film. Et donc, Le Rogue a été fait dans le cadre de l'association Equinox Film, qui est une association de production. Dans laquelle plusieurs membres sont bénévoles sur les projets de films qui les intéressent. Et donc j'ai montré ce film à ma mère et ses mots ont été complètement décalés, intelligents, drôles, à regarder plusieurs fois car il y a plein de détails. Et je trouve que c'est un bon résumé du film.
Parce que tu aimes ta mère, Lumna.
Parce que j'aime ma mère aussi. Et donc le synopsis, ce sont deux compères, des réminiscences de Don Quichotte et de Sancho Panza, qui se prépare à affronter le déluge du haut d'une falaise bretonne face au vent qui forcisse. Mais ce ne sera pas encore pour cette fois. S'ils n'affrontent pas le cataclysme, c'est pour mieux affronter un autre abîme, le chaos totalitaire. Et donc tout le fil rouge du film, c'est la recherche d'un personnage appelé le Rogue, un personnage mystérieux, intrigant, qui rappelle un peu le personnage du parrain dans les films de drogue, le personnage inatteignable où le chemin pour l'atteindre est empreint de mort et de danger. Le film se déroule en 4 actes, c'est revendiqué comme tel, chaque acte porte un titre, il a son lieu d'action et une mise en scène, un dispositif assez fort. Et chaque acte a bientôt, bien sûr, son lot de références littéraires, cinématographiques et philosophiques que chacun peut déchiffrer ou non. Et bien sûr, beaucoup de détails absurdes, ce qui est assez propre au réalisateur qui en distille un peu dans tous ses films. Et donc Le Rogue, c'est pour moi un film curieux. Léo ne nous impose pas du tout une histoire linéaire, il nous laisse avec son film ses détails et c'est à nous de piocher ça et là, d'y trouver nos références et de reconstituer un peu le fil de l'histoire. Et du coup, c'est un film voilà, assez absurde, à l'image de ces deux personnages attuffés d'un parasol blanc pour vaincre l'apocalypse. C'est un film aussi intrigant, on sent une réflexion politique, mais rien ne nous est imposé, il n'y a pas de discours à déchiffrer, on n'arrive pas à situer là où se situe Léo. C'est un film qui tente des choses, qui a des idées de mise en scène, qui a un certain rythme, il y a une certaine recherche visuelle. Alors tout le monde ne s'y retrouvera pas. Il y a certains qui sont complètement hermétiques à ce cinéma et qui voient un essai cinématographique rempli de citations avec ce côté un peu élitiste. Mais voilà, pour moi, c'est à nous de voir ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et pour moi, Léo Dazin, le réalisateur, esquisse et à nous de compléter le dessin.
Merci Lumna. Donc tu nous rappelles, est-ce qu'il y a une femme à barbe briochine?
Pas du tout,
pas du tout.
Cette fois.
Okay, pas cette fois.
Cette fois, il y a des personnages tout colorés, peints en rouge, en vert, et une superbe scène avec des chevaux. Voilà, je vous en dis pas plus.
Ok.
Juste et donc il est visible sur Cube.
Oui.
Pardon, juste pour dire que j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé La ville s'endormait. Je vous le conseille. La femme à barbe est superbe. Je crois que je suis tombé amoureux.
Ok, Lumna, tu nous rappelles le titre et où est-ce qu'on peut trouver ce film?
Alors, Le Rock de Léo Dazin, fait en 2013, est visible sur la plateforme Cube, donc le web média breton de la culture.
Très bien.
En accès gratuit.
Merci beaucoup, Lumna. On passe à notre chronique suivante.
Juste un mot.
Juste un mot, on a le plaisir d'accueillir Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu as la parole pour ton éclairage particulier et personnel sur un film.
D'accord, merci. Alors moi, je vais vous parler de Amour de Michael Haneke. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dans l'actualité avec Happy End en ce moment au cinéma. Et aussi parce qu'Arte l'a diffusé et du coup, il est encore trouvable, il me semble, sur leur site internet. Voilà. Alors parler du cinéma de Haneke, c'est d'abord se mesurer à son auteur, soit un cinéaste de la maîtrise, d'une nature d'ailleurs presque didactique. Par exemple, en son cinéma, il n'est pas rare de voir une ouverture de plan illustrée par une porte qui s'ouvre ou un plan qui se referme par une porte qui se clôt. C'est comme l'illustration de ce qui se joue dans la composition même d'un plan. Montrer qu'au cinéma, il s'agit de montrer. Chez Haneke, le spectateur ne regarde pas par un trou de serrure, la porte lui est ouverte et son regard, au gré du montage, franchit alors des seuils divers. Dans la composition du champ, il n'entre pas seulement des enjeux spatiaux et physiques, mais le temps y est non moins sensible, inscrit dans la durée même de ses plans. Malgré la maîtrise indéniable de son cinéma, Haneke est, à en lire les critiques, sujet à débat même houleux. L'objet de la discorde concerne principalement sa mise en scène. Sous certaines plumes, elle ne saurait être plausiblement que la forme sublime qui habille le sadisme de son auteur, un sadisme qui s'exprimerait tant à l'égard de ses personnages que de ses spectateurs. En retraversant Amour et sa forme, gageons de sonder le fond, bon ou mauvais, de Michael Haneke. Alors je vous fais le synopsis que vous retrouverez sur le site d'Arte, c'est là que je l'ai emprunté. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris pénètre dans un appartement cosu, dans une chambre verrouillée dont les portes ont été scellées. Ils découvrent le corps d'une femme âgée reposant sur un lit de fleurs dans sa plus belle robe. Dans le huis clos de leur appartement, l'on revit alors les derniers mois d'un couple, Anne et Georges, professeur de piano en retraite, alors qu'elle est frappée d'un processus de paralysie évolutive qui la détruit peu à peu. Le premier plan du film est une porte ouverte avec heurts et violence pour pénétrer un appartement, soit le lieu quasi unique du film, que les pompiers visitent jusqu'à débusquer le cadavre d'Emmanuel Riva. D'emblée, le regard du spectateur, subordonné aux actions de ces hommes, s'inscrit comme une effraction, et dans leur sillage, nous franchissons des seuils de porte dans l'appartement, renvoyant, symboliquement, au seuil de l'intime, que notre regard foule jusqu'à buter sur le corps mort d'une femme, Emmanuel Riva. Le ton est donné, le film nous convie à épier l'intimité d'un couple jusqu'au spectacle de la mort. Le cinéma de Haneke vient de nouer les noces entre le spectateur et son couple de protagonistes, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, Georges et Anne, de leur prénom dans le film. Nous les scruterons, promesse est faite, jusqu'à ce que la mort les sépare, les arrache à notre regard. Et puisqu'il est question de mariage, autant le célébrer dignement. Le titre du film apparaît en lettres blanches sur fond noir, puis advient le second plan du film, une vue frontale sur le public de l'Opéra des Champs-Élysées. Il faut un temps à notre regard pour débusquer en cette foule Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. La lumière décline pour annoncer l'entame du concerto et le public applaudit avant que ne débute le spectacle. À l'échelle du film, ces spectateurs applaudissent en chœur le musicien qu'ils sont venus entendre. Mais symboliquement, les spectateurs que nous sommes semblent être vus et applaudis par ces autres spectateurs. Virtualité retentissante de sarcasme, ces gens de bien, assistant à un art noble dans un lieu prestigieux, acclament ceux, face à eux, plus vils, venus au cinéma voir le spectacle profane d'une mort annoncée. Ils ont beau rôle de nous juger unanimement sous leurs applaudissements, applaudir ceux nombreux qui soutiendront le regard devant l'entropie de la vie faite pour nous spectacle. Et si demeure encore un doute sur l'impudeur de notre regard, Haneke martèle à nouveau l'idée née du premier plan séquence. Il est affaire d'effraction. Le couple regagne son domicile et remarque des empreintes de tournevis sur le verrou de la porte d'entrée. Ils en concluent à une tentative avortée de cambriolage. Alors même que la caméra et nous avec elle sommes déjà dans l'appartement, volant déjà leur intimité, fut-elle alors happée par notre curiosité. Apeuré par la présente situation, Emmanuel Riva confie à son époux « Tu imagines s'il rentre dans notre chambre pendant que nous dormons ? Pourquoi veux-tu que j'imagine pareille chose ? Pourquoi ? Parce que tapis dans l'ombre, le spectateur veut se repaître de l'intimité de ce couple, et vous l'aurez deviné, au plan suivant, sommes-nous dans leur chambre à coucher, les regardant dormir. Il y a initialement un plausible procès du regard, celui du moins du spectateur. Mais si était-il uniquement question de cela, le film pourrait, au compte de quelques plans, s'achever. Non, me direz-vous. Encore faut-il que Haneke nous montre, et monte en spectacle, ce qu'il condamne, que nous puissions être dignes du mépris qu'il nous témoigne. Et de mépris encore, celui-là de Godard, emprunterons-nous cette citation. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. En somme, Haneke exposerait à l'écran nos désirs, fussent-ils inavoués. En ce sens, Haneke se poserait là comme un médecin de notre civilisation, donnant à voir nos pulsions en y filmant le fétiche de la mort en la personne d'Emmanuel Riva. Haneke filme dans un premier temps le couple dans son unité. Ainsi sont-ils initialement vus dans le même plan, le même cadre. Faudra-t-il patienter la première attaque dont est victime Emmanuel Riva pour que le traitement filmique du couple varie, l'unité cédant le champ au duel. Déjà, lorsque Jean-Louis Trintignant constate l'absence qui soudain cueille son épouse, est-il contraint de l'abandonner, attablé dans la cuisine, pour s'habiller et aller quérir des secours. La caméra suit alors l'époux et par strate d'éloignement, acte une césure entre le couple. Plan sur l'homme, plan sur la femme, et non plus systématiquement un plan que le couple uni se partage. Ce hiatus actualise alors un seuil nouveau, Ce hiatus actualise alors un seuil nouveau de l'intimité, ouvrant sur des rapports encore inhabituels du couple. Avec l'essor de la maladie, croît la fêlure du couple, de leur union. La mort s'est comme glissée entre un plan de Jean-Louis Trintignant et un plan de son épouse. Si fluette fut-elle, elle est déjà là, présente entre le champ et le contre-champ. Et de séparation en séparation, elle étend dans la durée son œuvre funeste. La mort fait ses promesses par cinématographe. La formule d'Epstein si plausiblement à merveille à amour. Certes, mais la césure peut ne pas être uniquement le trou béant où gît la vie. Pas seulement la promesse d'une mort certaine, déjà redéfinit-elle les rapports entre le couple et par extension, notre rapport à ce couple. En effet, lorsqu'ils demeuraient unis dans le même plan, était-il l'objet primordial de notre regard. Mais voilà qu'en les déliant, le montage fait naître les regards singuliers qu'ils posent l'un sur l'autre. Dès lors, le regard peut même être sujet au questionnement. Ainsi, Jean-Louis Trintignant de demander « Mais c'est quoi mon image ?»« Tu es un monstre, parfois, mais tu es gentil », répond de sa douce voix Emmanuel Riva. Il n'y a plus seulement notre regard discutable de spectateur, mais est-il virtuellement redoublé par tous les regards qu'embrassent les champs contre champs ? Alors, contre la césure et la mort, il y aurait peut-être un salut possible, passant par les regards et leur accord. Soit le premier dialogue entre Jean-Louis Trintignant et sa fille Eva, interprétée par Isabelle Huppert. Il y a d'abord un plan les saisissant ensemble, puis tardivement, s'amorce entre eux une série de champs contre champs, filmant d'abord Jean-Louis Trintignant, comme pour y débusquer sous ses traits l'émotion qui le saisit lorsqu'il conte à sa fille la maladie de son épouse. Ce point de montage est comme l'expression de notre pulsion scopique. Longtemps, nous les regardions à distance, mais dès que pointe l'opportunité de mirer la souffrance, s'amorce le raccord. Ce plan rejoue ainsi le thème de l'effraction pour que nous puissions convenablement dérober au personnage sa pudeur de vivre. Dans cette scène, un dernier contre-champ saisit Eva, confessant à son père qu'elle aimait naguère les écouter faire l'amour. Pour moi, c'était rassurant. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Nous, spectateurs, transgressons encore un seuil d'intimité en recueillant cette confidence qui ne nous est point destinée. Cependant, pouvons-nous non moins noter qu'enfant, Isabelle Huppert partageait notre impertinence, s'immisçant secrètement dans l'intimité de ses parents. Le montage rebondit même sur cet impudique récit et nous achemine dans la chambre à coucher où deux hommes installent un lit médical à l'attention d'Emmanuel Riva. Si Eva, Isabelle Huppert, se contentait d'entendre ce qui se passait dans la chambre de ses parents via ce raccord, le spectateur est lui assuré d'assister à ce qui se jouera dans l'intimité du couple. Et c'est une promesse à connotation pornographique, une pornographie de la souffrance dont se nourrira sans limite géographique et de fait sans limite morale notre regard. Et ce n'est pas seulement le regard du spectateur qui est violent. Sous certains regards de personnages sommeille autant de vices. Vers la fin du film, Eva, donc Isabelle Huppert encore, insiste auprès de son père pour être un peu au chevet de sa mère. Les gens lui Trintignant s'y opposent tellement qu'ils verrouillent la porte de leur chambre, cloisonnant dans un hors-champ son épouse. Et se justifie-t-il auprès d'elle et par écho auprès de nous ? C'est triste et humiliant pour elle comme pour moi, et elle ne veut pas qu'on la voie dans cet état. Ou le dit-il encore d'une phrase plus concise, qui prêterait idéalement de formule au film même, « Rien de cela ne mérite d'être montré ». Cependant, Eva insiste, « Tu ne peux pas m'empêcher de la voir ». À l'instar du spectateur, elle est entrée dans cet appartement pour voir Emmanuel Riva en proie à la mort, et son souhait, commun au nôtre, sera contenté. Jean-Louis Trintignant ouvre finalement la porte, et le plan ouvre également son champ à la mort, pour en faire des images, pour en faire un spectacle. Plus simplement, lorsque la césure délie le couple pour faire de leur image initialement commune deux plans, elle redéfinit le rapport de l'un à l'autre, et des autres envers eux-mêmes. Avec la maladie, le corps d'Emmanuel Riva s'affaisse, et souvent contraint la caméra à abandonner, à adopter des angles de prise de vue inclinés, des plongées. À présent que l'époux et l'épouse ne sont plus sur le même axe, par l'entremise de leurs plans respectifs, notre regard s'élève ou se penche virtuellement sur eux. Ce n'est plus seulement des champs contre champs, mais la scission de leur couple peut également être en jeu de plongée et de contre-plongée, avec tout ce que pareil angle de prise de vue draine en signifié, tant hiérarchique que moral. Pour bien comprendre ce qui se joue lorsque le corps déchoit, revenons au prologue du film, et plus généralement à la structure même de cette présente œuvre. Amour épouse une forme cinématographique moderne, contrairement à la narration d'inspiration classique. L'histoire n'est pas linéairement agencée par un début, un milieu et une fin, mais déjà le début coïncide avec la fin, puisqu'il nous en révèle le climax, la mort d'Emmanuel Riva. Le terme même de climax est alors anachronique, tant cette finalité révélée d'emblée n'est plus garante d'aucun suspense. Et de fait, l'intérêt du film n'est point son histoire. Jean-Louis Trintignant le dit d'ailleurs très bien au sein même de cette fiction, quand il conte à son épouse son premier souvenir de cinéma. « Je ne me souviens pas non plus du film, mais je me souviens des sentiments. » Le cinéma moderne peut bien faire fi de l'histoire. Son sujet premier est le sentiment. Sentiment au singulier ou au pluriel. Mais revenons à ce début de film, somme toute assez radical. Il déjoue la linéarité du temps pour lui substituer le présage d'une chute pour destin. Chute dans tout son sens, dans un sens multiple. Chute de l'histoire, mais non moins chute d'un corps qui sombre dans la mort. Et c'est cette pente, cette déclinaison qui se joue dans l'infirmité toujours plus grande d'Emmanuel Riva. Nous comprenons alors mieux la césure qui bouleversera l'équilibre du couple. Elle est là pour mieux éconduire la vie et conduire jusqu'à son terme le film. Voilà.
Merci Jean-Jacques pour cette analyse de Amour de Michael Haneke. On va enchaîner avec un peu de son.
Yeah.
Small Town Boy Bronski Beat sur la bande originale du film 120 battements par minute.
Et voir Jeff danser derrière la console, c'est génial.
On passe à la suite.
Electro. Un petit problème avec mes enchaînements. Et oui, la technique.
Non, ce soir, nous n'avons pas d'électro-BO. On va passer tout de suite à notre théma. C'est pas grave. On a choisi ce soir de vous parler du...
Théma.
Du théma, comme dit Francesca derrière les platines, du sida au cinéma. Dans la longue histoire des pandémies qui ont frappé l'humanité, le sida tient une place particulière. Apparu au début des années 80, cette pandémie, du grec pan qui veut dire tos et domos qui veut dire peuple, c'était les 30 secondes culturelles.
Oh, bravo, bravo, on est admiratif.
S'est développée sur une large zone géographique et a tué entre 80 et 2013, selon les chiffres de l'OMS, plus de 40 millions de personnes. Le cinéma s'est bien sûr emparé de la question du sida qui a de multiples dimensions, des dimensions médicales avec la dégénérescence, la mort, dimension sociale avec le rejet du malade, l'exclusion, la quête d'un traitement et bien sûr une dimension sexuelle. En Occident, le sida frappe majoritairement les hommes homosexuels. Pour mémoire, le premier film faisant du sida son thème central est Patting Glances de Bill Sherwood avec Steve Buscemi en 86. Et le dernier en date, au moins en France, fut 120 battements par minute de Robin Campillo en 2017. Ces deux films sont caractéristiques de deux axes majeurs dans le traitement du sida au cinéma. Le premier axe est celui d'une focale sur le parcours d'un individu. On peut citer Once More de Paul Vecchiali en 88, le premier film français traitant du sida. On peut citer aussi l'emblématique Nuit fauve en 92 de Cyril Collard, qui met en scène son propre parcours, lui qui mourut à 35 ans, 6 mois après la sortie du film. De l'autre côté de l'Atlantique, Philadelphia, de Jonathan Demme en 93, demeure à ce jour la seule production hollywoodienne d'une major sur le sida. Bon, c'est un film assez conventionnel, l'intimité entre Tom Hanks et Antonio Banderas est à peine effleurée, c'est un film compassionnel mais qui a eu au moins le mérite de sensibiliser un large public à la maladie. Le deuxième axe choisi pour le cinéma, cet axe s'est développé plus tardivement, c'est celui de la lutte collective qui met en avant les notions de solidarité et de combat. On a déjà évoqué 120 battements par minute, mais on peut aussi citer Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey en macho homophobe qui développe un business pour une communauté qui se soigne seule en dehors des circuits officiels. Parallèlement, enfin, le cinéma file la métaphore sur la maladie sans faire mention explicite du sida. Mauvais sang de Léos Carax évoque la maladie qui frappe, je cite, « ceux qui font l'amour sans l'amour » et le Dracula de Coppola mêle clairement sang et sexe dans une approche métaphysique. Et puisqu'on ne peut pas tout rentrer dans des cases, je voudrais citer dans cette introduction un peu longue, excusez-moi, la filmographie particulière d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau, qui tout au long de leur œuvre évoquent la maladie, avec notamment une comédie musicale, Jeanne et le garçon.
C'est ce dont je vais parler.
Avec un road movie, Drôle de Félix, ou une histoire d'amour avec Théo et Hugo dans le même bateau. Voilà pour cette tentative de mise en perspective. Chers camarades, je vous laisse la parole, Jean-François.
Oui, alors donc quand on a choisi la thématique du sida, c'était pour faire bien sûr écho à 120 battements par minute, et parce qu'on trouvait aujourd'hui le sujet peu représenté au cinéma. Alors en faisant un retour en arrière, je me suis aperçu que voilà 30 ans que le cinéma traite de près ou de loin du sida. Donc j'ai donc préféré, vu le nombre de films qui existent, faire un focus justement sur les deux cinéastes qui travaillent ensemble, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Donc en 98, ils osent pour leur premier film, comme tu l'as dit, une comédie musicale, Jeanne et le garçon formidable, qui donne un autre air à la séropositivité, et ça c'est vraiment audacieux. C'est un hommage assumé à Jacques Demy, d'ailleurs l'un des rôles principaux est tenu par son fils Mathieu Demy. Donc pour rappeler l'histoire, Jeanne, jouée par Virginie Ledoyen, est à la recherche de l'homme de sa vie. Elle pense avoir enfin trouvé en la personne d'Olivier, donc Mathieu Demy, mais ce dernier disparaît de sa vie dès qu'il apprend qu'il est atteint du sida. Jeanne tente alors de retrouver sa trace. Alors d'une scène chantée à une manifestation d'Act Up, c'est un film militant. Ducastel et Martineau ont eux-mêmes fait partie de l'association. Et élément remarquable, merci Laurent, le héros n'est pas homosexuel, ce qui donne au film une dimension plus universelle.
Tu rencontres un garçon qui t'aime et tu lui offres ton amour. Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours.
j'ai rencontré un garçon formidable. Quand je l'ai vu juste en face de moi, j'ai ressenti ce frisson agréable.
Alors rien qu'en entendant ces quelques minutes, bah, j'espère que ça vous donnera envie de voir ou de revoir ou de découvrir le film. Donc alors, dans une interview récemment, Olivier Ducastel confiait qu'à l'époque de Jeanne et le garçon formidable, il aurait semblé éthiquement inacceptable et complètement impossible de finir le film, un film plutôt, avec un séropositif par un happy end. Aujourd'hui, poursuit-il, c'est possible. Les deux films enregistrent avec 20 ans d'écart l'évolution du sida, du rapport à la maladie et à l'avenir. Alors ce deuxième, ce qui me permet de faire une transition, parce que le deuxième film dont il parle, c'est Théo et Hugo dans le même bateau, réalisé en, qui est sorti en 2016. Ils ont réalisé ce film dans un esprit très nouvelle vague, c'est leur Cléo de 5 à 7, sauf que là ça se passe de 5h à 7h du matin. Donc de 5h à 7h du matin, on y suit deux amants qui sortent d'un sex club. Et là, les scènes, comme pour l'inconnu du lac, sont des plus explicites, ce qui me rend admiratif de l'investissement total des deux acteurs. Donc, ils vont donc à l'hôpital pour un traitement de post-exposition au virus, car l'un est séropositif et l'autre pas. Le film est volontairement très pédagogique, comme lors de cette scène à l'hôpital, à l'approche presque documentaire quand est prescrit le traitement post-exposition. On lui donne les cachets, il mange une madeleine, on le voit regarder sa madeleine en temps réel, on a l'impression qu'il va s'étouffer, on est vraiment dans la scène. Et donc le film, sur fond de déambulation dans un Paris nocturne, presque désert et fantomatique, hanté aussi bien par le spectre du sida que celui des attentats du 13 novembre, eh bien ils vont transformer leur amour naissant en une arme de résistance, et tout cela filmé en un temps presque réel. Pour terminer, je vous conseille, comme Laurent, un peu les mêmes, de vous replonger dans leur filmographie à l'identité bien marquée, et surtout faussement légère. Et donc je vous conseille Drôle de Félix, pareil, Ma vie à Rouen, Crustacés et coquillages, qui termine en chanson, ce film-là, comme disait Jacques Demy, c'est une scène enchantée en deux mots.
Il faut absolument, il faut absolument voir Ma vie à Rouen. Moi qui suis née à Rouen, tout est vrai. Lumna.
Alors, moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les années sida à l'écran, de Didier Ross Bettoni, qui est sorti il y a un mois. Et donc c'est tombé vraiment à pic pour notre thème. Et qui est édité chez Eros Onyx, dont le principe est qu'un livre soit accompagné d'un DVD. Et donc le livre est accompagné par le film Zéro de patience, réalisé par John Grenson en 93. Et donc l'auteur, Didier Ross Bettoni, c'est un journaliste et critique de cinéma dans divers magazines culturels. C'est aussi l'ancien responsable du festival Chéri Chéri, et également un historien du cinéma qui a écrit plusieurs livres, dont L'homosexualité au cinéma, Le cinéma français et l'homosexualité. Et voilà, donc c'est un peu un spécialiste. Donc dans ce livre, Les années sida à l'écran, son objet d'étude, c'est les films de 1981 à 1996 qui parlent du sida touchant les hommes gays. Il aurait pu d'ailleurs élargir son objet d'étude aux films parlant du sida en général, et donc mettre dans son corpus des films qui parlent de la contamination en Afrique, du sang contaminé, etc. Mais il a choisi de restreindre son corpus, car il avait l'impression de perdre un peu le fil conducteur, de mélanger des films qui n'avaient pas de cohésion entre eux, alors que son objet d'étude, là, a une certaine cohérence. Les films ont des liens entre eux, et c'est possible, là, d'en faire une histoire. Il a choisi Zéro de patience, car il fallait déjà un film qui datait de ces années-là. C'était un film emblématique avec une dimension militante, il y a ACT UP dedans, et queer qui était très importante. Et le film en fait condense et illustre tout ce qu'il avait choisi de développer dans son livre. Donc il fait une histoire chronologique, mais c'est pas la chronologie de la sortie des films, mais bien les années, la chronologie des années sida. Par exemple, il choisit de parler d'un film qui est sorti en 93 pour parler du début des années sida. Et donc, il met en avant deux types de films, les deux types de films dont tu parlais, Laurent, dans ta présentation. Lui, il appelle ça les films compassionnels, donc Philadelphia, Un printemps de glace, et les films militants plus audacieux, Blue, Zéro patience, Un virus n'a pas de morale, etc. Et donc, pour lui, il les oppose pas. Pour lui, ces deux types de films se complètent. Ils ont chacun leur propre objectif, leur propre destinataire, leur propre valeur. Par exemple, pour film Philadelphia dont je parlais tout à l'heure, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a quand même une grande importance dans cette histoire de film sur le sida. C'est le film, il n'a pas pour objectif de parler aux militants, ni aux homosexuels, mais à un large public qui, en 93, rappelons-le, ne sait rien de cette maladie qui fait peur et qui dégoûte. Mmh. Et pour la première fois, c'est un acteur très populaire, Tom Hanks, qui va incarner un malade du sida, où on va voir son corps se dégrader. Et un autre acteur très populaire aussi, donc Denzel Washington, qui incarne cette fois le côté, la majorité des gens qui à cette époque ont une réaction de dégoût et de rejet, mais qui dans le film va évoluer et donc va changer d'avis petit à petit. Et donc faire ça en 93, au pic de l'épidémie, où les réactions sont les plus virulentes, c'est un tour de force. Pour l'auteur en tout cas. Et donc l'auteur cite d'autres films dans cette lignée, qui ont contribué à construire, je cite, « une première barrière de tolérance ». Et s'il n'y avait pas eu ce type de film-là, donc c'est ce type de film compassionnel, on va dire, il n'y aurait pas eu tous les autres. La conjonction en fait, de tous ces films fait que cette histoire existe. Et l'auteur explique aussi que les films ont représenté une époque, mais qu'ils ont aussi contribué à changer une certaine vision des choses et qu'il y a une interaction entre les films et leur époque qui va dans les deux sens. Donc voilà, je vous conseille ce livre qui vous permet de vous plonger dans cette histoire des films.
Tu peux nous rappeler le titre, Lumna, s'il te plaît ?
Alors, c'est Les années sida à l'écran de Didier Ross Bettoni.
D'accord. Jean-Jacques, un mot sur la question ou on en parlera à un autre moment ?
Non, alors rapidement sur le film, c'est Théo et Hugo, ça, sont dans un bateau.
Sont dans un bateau.
Alors, si je me rappelle bien, à la fin, on n'apprend pas s'il est... On n'apprend pas s'il est séropositif ou pas, c'est ça ?
Le deuxième, non.
Voilà.
Non, pas du tout.
Et en fait, je trouvais cette idée remarquable parce que finalement, elle fait du spectateur un allié du personnage. C'est-à-dire que tous ensemble, on va être avec lui dans la période la pire, c'est-à-dire la période où il faut attendre, patienter, c'est ce qu'il voit et ce qu'il vit. Et il n'y a pas seulement l'autre membre du couple qui est avec lui, il y a aussi nous tous, en fait. Et il ne nous fait pas comme... Enfin, même si on peut croire qu'il nous donnera la réponse, donc on attend peut-être ça, au final, on ne l'aura pas. Mais on aura fait un acte virtuellement civil et humain. On aura attendu et patienté avec lui. Voilà, c'est tout.
Ok. Merci Jean-Jacques pour cet éclairage particulier. Voilà, c'était notre thème du soir. C'était notre Vidéodrome épisode 2. On va se quitter. On va se quitter avec notre traditionnelle question con. Alors la question con du soir, je vous rappelle, nous n'avons pas la réponse, donc je vous la livre. Comment fait le barman dans les westerns pour faire rouler le verre de whisky plein à l'autre bout du comptoir sans qu'il se renverse ni se brise ?
Est-ce que tu as déjà essayé, toi, là ?
Non, je n'ai personnellement.
Quand est-ce qu'on fait un atelier ?
J'avais essayé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à tous. Passez une bonne soirée. On était donc en direct pour Radio Balise sur 99.8. Vous pouvez nous retrouver...
Pour la première fois en direct.
Pour la première fois en direct. Et vous pouvez nous retrouver sur le site de radiobalise.org.
Ou sur le Facebook Vidéodrome Radio Balise.
Voilà. Merci Lumna, merci Jean-Jacques, merci Jean-François, merci Damien.
Et merci Laurent.
Merci à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vidéodrome. C'est fini.